Bien, bonsoir à tous. Donc, nous allons commencer cette séance du Conseil municipal. Je vais commencer par faire l'appel. Donc, Isabelle Touzard présente, Alain Vallet-Vialard présent, Laurence Rousseau,
oui.
Serge Boulet
présent,
Claudine Moya-Anne,
oui.
Denis Pierre
présent,
Mylène Julier
présent.
Laurent Maillot est absent et a donné pouvoir à Alain Vallet-Vialard. Anne Jiménez
présent,
Laurent Moulin
présent,
Françoise Hazard
présent,
Romain Deloustal est absent, a donné pouvoir à Béatrice Taglioni-Coster. Béatrice Taglioni-Coster
présent,
Mathias Mignard est absent et a donné pouvoir à Denis Pierre. Béatrice Poncic absente, a donné pouvoir à Claudine Moya-Anne. Joanne Servigna.
Bonsoir.
Alors, il va sans doute arriver, il n'a pas dit qu'il serait absent. Cécile Corsinos est excusée, n'a pas donné de pouvoir. François Daisy.
Présent.
Et Gilles Chicot est excusé, n'a pas donné de pouvoir. Voilà, donc, qui veut bien être secrétaire de séance?
Moi.
Claudine Moya-Anne. Merci, c'était rapide. Et donc on passe à l'approbation du compte-rendu de la séance du 1er octobre 2015 que vous avez reçu avec la convocation. Est-ce qu'il y a des observations? S'il n'y en a pas, je le mets au vote. Donc pour l'approbation du compte-rendu du 1er octobre, qui est contre? Qui s'abstient? Donc il est approuvé à l'unanimité des présents. Et donc on va passer au cœur de la séance, et on va commencer par deux points qu'on va traiter successivement, mais un peu ensemble, qui sont l'adoption du rapport de la commission d'évaluation des transferts des charges de Montpellier-Méditerranée et Métropole, la CLECT. Donc peut-être Laurence, tu pourras nous dire quelques mots sur ce point-là. Et ensuite, nous allons passer à un point important, qui est historique, je dirais, qui est le vote de l'attribution de compensation définitive pour 2015, et je dirais au-delà de 2015, pour l'avenir, c'est les attributions de compensation que l'on vote pour le transfert des charges dans le cadre de la passage de l'agglomération en métropole. On va aborder ces deux points-là. Donc, j'introduis un peu, Laurent.
Oui, oui.
Donc, on a préparé un PowerPoint hein, pour ces points-là. Donc, vous le savez, on a voté en début d'année un montant d'attribution de compensation pour les charges que l'on transfère à la métropole qui était provisoire, qui a permis, ce calcul provisoire, a permis de fonctionner pendant l'année 2015. Pendant l'année 2015, la commune, dans le cadre d'une convention de gestion provisoire, gérant au compte de la métropole encore l'ensemble des dépenses. Donc on a reversé une attribution de compensation, mais comme on continuait à assurer la charge, la métropole nous rembourse, donc sur facture, selon un mode de calcul qui est celui, un mode de calcul provisoire. Et d'ailleurs, au dernier conseil municipal, si vous vous souvenez, on a voté, parce que c'était nécessaire, on a voté les montants par compétence. Que la métropole nous a demandé de faire, au départ on avait voté simplement le somme. Donc là ce soir, il s'agit de voter le montant définitif de cette attribution de compensation, puisque la métropole maintenant va prendre en charge ces compétences-là et va faire les dépenses correspondantes. Donc on verse cette attribution de compensation définitive. Donc les modes de calcul pour arriver à ce calcul définitif ont été, ont fait l'objet de multiples séquences de travail entre DGS pendant tout le printemps et tout l'été. Ça a été passé en conférence des maires en septembre, où ça a été validé par la conférence des maires. Donc l'ensemble des 31 maires ont validé les modes de calcul, compétence par compétence. Et ensuite,
après, il y a la commission, donc la commission locale d'évaluation des transferts de charges, qui a également voté le 22 septembre.
Voilà, qui est composé
tous les calculs qu'a validé la validation par la validation de la conférence.
Alors, dans le cadre de la loi territoriale, il est prévu des modes de calcul dits réglementaires pour calculer à chaque fois le montant des dépenses qui sont prises en référence, dépenses de fonctionnement ou d'investissement. Mais la loi prévoit qu'on puisse déroger. Et si on déroge, il y a ont choisi d'autres méthodes de calcul. Donc, il faut que ce soit fait d'un accord commun entre l'ensemble des 31 communes. Il suffit qu'une seule commune soit contre un mode de calcul pour qu'on le retombe automatiquement dans les modes de calcul réglementaires. Et alors, il y a notamment là un gros point, donc on vous en avait déjà parlé, parce que déjà, ça avait été pris en compte du montant provisoire, calcul provisoire, c'est la fameuse question des investissements. Vous savez que, en fait, on calcule l'ensemble des dépenses de fonctionnement et d'investissement relatives aux différentes compétences. L'ensemble des compétences, ce sont celles-là, hein, pour rappel, plus DSI, DSI, donc c'est les services des pompiers. DSI, c'est les bornes d'incendie. SDIS, c'est les pompiers et casernes. Aire d'accueil d'agents, ça nous concerne peu. Tourisme, ça ne nous concerne pas. Énergie, un peu. Et surtout, voirie nettoiement.
C'est l'aire d'accueil des gens du voyage, quand même, on participe.
On participe.
À hauteur de 700 euros.
Ouais, on va y revenir.
On n'est pas concerné.
On y participe. Et voirie nettoiement. Voirie nettoiement, c'est bien entendu le très gros morceau. C'est la plus, c'est le, je dirais peut-être 80% du transfert de charge. Et ça comprend à la fois du fonctionnement et de l'investissement. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, sur notre budget de fonctionnement, on va virer chaque année à la métropole un montant lié à l'ensemble des charges de fonctionnement qu'on ne prend plus en charge nous, les salaires, les frais de fonctionnement, mais aussi les investissements. Les investissements se calculent à partir des dépenses d'investissement moyens que l'on a fait sur les voiries espaces depuis 10 ans, moins les recettes qu'on a pu toucher, parce que maintenant, c'est la métropole qui touchera ses recettes, les subventions, etc. Mais si on avait reversé à la métropole 100% de ces investissements nets, nous, notre résultat de fonctionnement aurait été gravement, et on n'est pas les seuls, on est l'ensemble des communes, gravement mis en danger, parce qu'on ne pouvait plus faire apparaître aucun résultat, ou très peu. Donc, et du coup, après, très difficile de pouvoir, ne serait-ce que contracter des nouveaux emprunts, ou une capacité d'épargne qui, du coup, devient nulle. Donc, ce qu'il a été convenu, de façon dérogatoire, c'est qu'on ne verse, on va y venir, à la métropole que 70% de ce montant. On garde donc les 30%, quelque part, sur le budget de fonctionnement, ce qui nous permet de pouvoir le mettre en investissement. Et ensuite, bien entendu, on est engagé, chacune des communes, dans le cadre de ce qu'on appelle un fonds de concours, à chaque fois que la métropole engagera 100, on va dire, enfin engagera ses dépenses, nous d'apporter ce fonds de concours correspond à ces 30% qu'on n'a pas reversé au moment de l'attribution de compensation annuelle. Voilà. Donc ça, c'est une méthode dérogatoire. Il suffit qu'une seule des communes refuse de voter les AC tels qu'on va vous les présenter pour qu'on retombe dans la méthode réglementaire pour tout le monde, c'est-à-dire notamment les 100% de reversement des investissements nets, ce qui serait pour de nombreuses communes, dans l'état actuel des budgets des communes, tout le monde souffre en ce moment, ce qui serait une catastrophe. Voilà, donc là on peut peut-être passer... alors ce qu'on va vous présenter maintenant, c'est compétence par compétence, le mode de calcul, et en fait c'est le cœur du rapport de l'ACLEP, et on vous demandera à ce moment-là d'approuver le rapport de l'ACLEP. Et ce rapport vous a été transmis... ce rapport vous a été transmis par mail. Oui.
Juste, il est susceptible que des communes refusent ou...
Non. Non. Les 31 maires en conférence des maires. Alors, ça voudrait dire que dans leurs conseils municipaux, certains soient dans des situations de fragilité telles où, dans leur majorité, il y a des débats. Mais à ma connaissance, il n'y en a pas. Je ne sais pas s'il y a une autre question à ce stade. On peut passer peut-être donc compétence par compétence à l'explication des modes de calcul. Et on a indiqué un dérogatoire qu'on ça a été. Je ne sais pas, Laurent, si tu veux donner les détails ou... Donc là, on est sur le plus.
Alors, le fonctionnement dérogatoire, c'est l'estimation d'un pourcentage de temps de travail DGS, donc le travail de tous les DGS ou des secrétaires généraux, suivi et accompagnement du marché de prestations à minima. Donc le pourcentage, il était de combien, Nathalie? À peu près, c'était quoi le pourcentage? Il était différent en fonction du nombre de...
C'est bon. C'était de
3%. 2-3%, d'accord. Et il y avait un montant plancher par habitant de 0,5 euros, correspondant à la moitié de la moyenne des dépenses des communes par habitant. Et nous, le montant se portait à 947 euros. Après, au niveau de l'investissement, contribution aux études, donc c'est toutes les études qui ont été faites, les études pour l'esplanade, etc., entre autres.
Non, c'est les modifications et les révisions.
Les révisions, et modifications plus, moyennées sur 10 ans. Ah oui, ils ont fait la moyenne sur 10 ans, exact. Je ne voyais pas ça. Ok. Donc là, on est tombé sur un montant de 3477 euros. Ouais.
Donc à chaque fois, pour chaque compétence, il y a fonctionnement et investissement. Alors, là, on peut continuer.
Enfin, tout ça, ça avait quand même déjà été expliqué.
Oui, mais là, c'est la méthode définitive.
Là, c'est la méthode définitive et les montants définitifs. Après, la compétence DECI, donc fonctionnement, méthode dérogatoire. Alors, c'est l'estimation d'un forfait par hydrant, c'est les bornes incendies, 80 euros TTC. Et ça comprenait également les réparations, c'est ça, hein, c'est l'entretien. C'était tout confondu, c'est pour ça qu'ils sont arrivés à ce montant-là. Donc nous, nous en avons 36 sur la commune, et donc un montant de 2800.
Donc là, la méthode est dérogatoire, parce que la méthode réglementaire, on faisait classiquement la moyenne sur les trois derniers CA des dépenses faites par les communes pour entretenir leurs bornes à incendie. Le problème, c'est que, mais ça c'est dans beaucoup de, pour beaucoup de compétences, il y a certaines communes qui, sur les trois dernières années, ont très peu
rien fait,
d'autres qui ont au contraire fait beaucoup de choses, et donc qui se trouvent pénalisées quelque part. Donc l'idée, c'est de repartir sur c'est quoi en moyenne le coût d'entretien des bornes à incendie.
Après, donc, la compétence DECI au niveau donc, de l'investissement toujours dérogatoire, estimation du coût sur la base d'un renouvellement des pays tous les 30 ans et d'une hypothèse de 60 000 euros hors taxe annuelle d'études hydrauliques.
Pour l'ensemble
Pour l'ensemble de la...
Mais c'est les points d'incendie, les bornes d'incendie. Les postes d'incendie. Donc là... Pareil, si on avait pris la méthode réglementaire, c'est-à-dire sur 10 ans, il y a certaines communes qui n'ont pas remplacé un seul poste d'incendie depuis 10 ans. Mais n'empêche qu'il va bien falloir un jour remplacer ces postes d'incendie. Donc le calcul a été fait sur les 30 ans. Donc c'est fait, on a estimé que la durée de vie était de 30 ans d'un poste d'incendie et que tous les 30 ans, de toute façon, il faudrait y remplacer.
Pardon ? Pour un montant de 3 723 euros pour la commune.
Ça ne doit pas être les bornes, parce que pays, tous les 30 ans...
Poteau incendie.
Ah, ouais. Tous les 30 ans.
Après, contribution se dit, c'est caserne. Donc fonctionnement, méthode dérogatoire. Donc on a pris en compte l'évolution des contributions des communes hors district sur les 31 communes au prorata de la population. Donc, en définitive, on est à 25 167 euros, alors qu'en provisoire, on était à 29 468 euros. Là, il n'y avait pas aussi une différence, Nathalie, par rapport au nombre d'habitants que comptait le...
Non, là, ils ont vraiment
pris, ils ont pris le réel.
En fait, ce qui s'est passé ici, la différence entre le provisoire et le définitif, c'est que le provisoire, c'est la réalité de ce qu'on paye aujourd'hui au SDIS. Mais en réalité, d'autres communes qui, au moment du passage du district en agglomération, certaines communes donc, qui ont été transférées immédiatement à ce moment-là n'ont plus à payer le SDIS depuis tout ce temps-là. Donc ne payent plus le SDIS parce qu'elles étaient dans le district à ce moment-là. Donc depuis l'époque, elles n'ont jamais payé le SDIS. Or, les communes comme les nôtres, au départ, depuis, ont continué à payer le SDIS. Donc, l'aglo, c'est 2002, je crois, c'est ça, le passage du district en aglo, et maintenant, donc tout ce différentiel d'évolution qui a été à la charge des communes a été retiré, pour tenir compte du fait que certaines communes ont continué à assurer la compétence, alors que d'autres en étaient déjà déchargées depuis l'époque. C'est ce qu'il faut voir, c'est qu'à chaque fois qu'on vote une attribution de compensation, c'était la même chose au moment de la création de l'aglo, etc., après, c'est figé dans le temps. Là, on calcule un montant de compensation qui ensuite sera figé.
ça montre aussi en fait que les remontées, voilà, ils ont tenu compte aussi des avis du maire et des avis des adjoints, parce que c'est quelque chose là, qui était
sensible. Il y a eu un gros débat.
Il y a eu des gros débats.
C'était très sensible.
Après, compétences, aire d'accueil des gens du voyage. Alors là, en fait, les 31 communes ont participé, même celles qui n'avaient pas d'aire d'accueil comme Murvielle. Donc, au niveau du fonctionnement, mais pas dérogatoire, donc répartition des charges nettes des aires d'accueil des gens du voyage entre toutes les communes au prorata de la population. Donc, c'est 0,328 euros par habitant, et pour Murvielle, ça fait 621 euros. C'est ça, l'adoption du schéma départemental, donc gel de l'impact des dépenses d'investissement sur les AC en 2015 et redéfinition de l'AC à partir de 2016 après une évaluation précise des travaux à réaliser sur les deux années à venir et après la mise en œuvre du nouveau schéma. Alors là, je...
L'idée, c'est que derrière ce choix-là, c'est que... on a eu un choix de solidarité intercommunale donc, qui a été discuté entre les maires. Parce que c'est vrai que la méthode réglementaire, c'était que seules les communes qui sont astreintes, qui ont plus de 3500 habitants, je crois, c'est ça, ou 5000, je sais, 3500, qui sont donc réglementairement, qui doivent créer une aire d'accueil des gens du voyage, donc ont des frais, et que ce soit en fonctionnement ou en investissement. Et donc ce qui a été décidé, c'est qu'en fonctionnement, ce soit... répartis entre toutes les communes au prorata du nombre d'habitants. Par contre, pour l'investissement, ben, on attend, parce que l'idée... C'est... Alors là, c'est un des rares points sur lesquels on risque d'avoir une révision de l'attribution de compensation à l'avenir. Ouais. En fonction de ce que donnera ce schéma des aires d'accueil des gens du voyage, qui doit s'inscrire dans le schéma départemental qui n'est pas encore...
d'occupation du domaine public des trois derniers comptes administratifs, donc moins de 13 788 euros.
Donc là, peut-être ça va expliquer.
Comme c'est la métropole qui va le percevoir, elle va nous le reverser, donc c'est des comptes de l'AC. Voilà. Après, il y avait aussi la question lors des AC provisoires que la TCFE soit également reversée à la métropole. C'est pour ça
expliquer ce que c'est la TCFE.
C'est une taxe qu'on perçoit sur les consommations finales d'électricité, donc c'est ce que paye chaque contribuable. Et chaque abonné EDF, et du coup, c'est récupéré par la commune. Ça s'élève pour Murvielle à peu près à 30 000 euros par an de taxes récupérées. Et donc, dans l'AC provisoire, on avait prévu, enfin, elle était décotée de 43 000 euros, 13 000 euros de RODP et 30 000 euros de TCFE. On s'est positionné, enfin, la mairie s'est positionnée pour ne pas reverser cette TCFE à la métropole, c'est-à-dire de la garder. Héro Énergie continue à la reverser directement à la commune. Donc, entre l'AC provisoire et l'AC définitive, la différence entre les 43 000 et 13 000 est là, c'est-à-dire qu'elle n'est pas décomptée de l'AC puisqu'elle est directement, elle n'est pas reversée à la métropole, elle est directement perçue par la commune. Par contre, celle-ci est reversée à la métropole et nous est reversée, donc c'est pour ça qu'elle apparaît en négatif dans l'AC.
Ça diminue le montant. Est-ce qu'on doit reverser?
Compétences voirie espace public, alors au niveau du fonctionnement, c'est la moyenne des dépenses et des recettes des trois dernières années. Donc on est à 89 198 euros. Pour l'investissement, c'est la méthode dérogatoire qui est appliquée. Donc amortissement du matériel basé sur le pourcentage d'utilisation pour la compétence voirie nettoiement, 5 242 euros. Et 70%, voilà, c'est ce qui est... Isabelle, de la moyenne des dépenses d'investissement net de recettes sur 10 ans. Abattement de 30%, donc c'est une fois la compétence de la commune, on est à
54 000, 398 euros. Dans le 89 900 euros de charges de personnel, donc ce sont les deux agents qui sont transférés à la métropole, plus 25%. D'un agent saisonnier. Donc ça fait de la masse salariale qui est envoyée à la métropole, donc qui continue à être. Il y a 18 981 euros qui sont constitués de tout ce qui est essence, d'entretien des véhicules, l'habillement des agents, enfin toutes les charges comme ça, et 12 000 euros d'éclairage public qui sont également transférés à la métropole. Donc ça, c'est des charges qui, en moins qui pèseront sur le budget de la collectivité puisqu'elles seront comprises dans le montant de l'AC mais ne seront plus imputées dans les articles du budget qu'on connaissait initialement.
C'est la métropole qui va maintenant payer les... Voilà. Prendre en charge toutes ces dépenses-là.
Compétences, ouais. Tourisme, taxi, économie, réseau, plage.
On n'est pas concernés. Ça, c'est...
Donc, il n'y a pas eu le choix.
Voilà, peut-être que tu peux expliquer, Nathalie, que ça, c'était un petit peu, ce calcul-là, il a été un petit peu les fonctions support et charges de structure.
Ah, oui.
Parce qu'il y a, ça, c'est quelque chose qui n'était pas prévu au départ dans le calcul provisoire et qui est arrivé dans un deuxième temps.
Oui.
Et là, peut-être l'expliquer parce qu'il est un peu compliqué, celui-là.
C'est dans le cadre de l'organisation, en fait, pour le fonctionnement du service et des pôles territoriaux. Mm. Il y a des nouveaux services voirés qui vont naître à l'échelle du territoire qui ont été déterminés sur les territoires du SCOT. Et pour organiser ces services, il y a besoin de prendre en charge des charges qui appartenaient aux communes et comment expliquer, qui vont peser maintenant sur les nouveaux pôles territoriaux qui ne pèseront plus sur les communes. Et pour pouvoir les quantifier, il y a des pourcentages qui ont été appliqués qui sont inférieurs à ce qui se fait en principe. Là, sur la quote-part de personnel sur les services transversaux, il y a 6% de ma salariale métier qui a été appliquée, alors en principe, on prend 8 à 10%. Donc là, ils ont fait un petit effort sur cette partie-là. Et sur les charges de structure, là encore, ils ont pris 3% de ma salariale métier. Donc tout ce qui vient, en fait, sur la voirie. Donc ceux qui vont saisir les DICT sur les ordinateurs, ceux qui vont faire les bons de commande, tous les petites choses qu'on fait par-ci par-là et qui ne sont pas vraiment quantifiées parce qu'on les fait un petit peu. Le téléphone, l'ordinateur, la chaise, le bureau, tous ces trucs-là qui ne sont pas forcément comptés dans l'AC et dont on a besoin pour organiser un nouveau service, il a fallu le quantifier et tout le monde donne du coup la même chose par rapport au pourcentage de ma salariale transférée.
Voilà. Donc c'est une partie.
C'est un petit peu ce qui est. Alors il y a une partie du DGS, effectivement. Voilà. Autrement, c'est le pourcentage de la masse salariale transférée qui a été impactée.
Alors c'est là où il y a eu des débats quand même, pour ne pas vous cacher, entre maires. Enfin, moi j'ai fait partie de cela, mais on n'a pas trouvé d'autre solution. C'est qu'avec ce principe-là, donc on estime que par exemple 6%, on va dire en moyenne, hein, 6% de Nathalie, 6% de Marie Bernadeau, etc. Enfin, il y a des fonctions support comme ça, hein, de Laurence Vidal, etc. Ou de l'accueil même. Enfin, il y a des fonctions support transversales comme ça. Et il y en a un petit pourcentage qui est dédié à la voirie. Et donc, on transfère ça, c'est 3 320 euros. Mais nous, à la commune, on va continuer à payer ces personnes à 100%. Donc c'est un mécanisme qui fait qu'au final, on a quand même créé de la masse salariale sur les collectivités, globalement entre la commune et la métropole. Donc c'est pas par ce mécanisme-là, pour l'instant, on n'est pas dans un mode de calcul qui fait qu'on soit à dépenses constantes. Parce que logiquement, on transfère des charges, on transfère des dépenses, mais dans le cadre de ce transfert de compétences, on devrait rester pour le contribuable, je dirais, et pour l'ensemble des collectivités. À budget constant, c'est juste un transfert. Or là, par cette méthode de calcul, on gonfle la masse salariale.
Mais provisoirement.
On espère provisoirement.
Parce que juste après ces mathématiques, les personnels qui sont transférés vont évoluer dans leur carrière, donc vont être amenés à être payés plus d'année en année, entre d'année et demie en année et demie, à chaque augmentation d'échelon. Et nous, dans la C, c'est figé, donc quelque part, au bout d'un moment, toute la fonction support va être absorbée
dans l'évolution. Après, pour la gestion de la logistique des agents qui vont avoir une compétence transversale, ça va créer de l'emploi.
Ben, on peut dire que ça crée de l'emploi.
Oui. Parce que quelque part, nous, on transfère des agents, mais tout ce qui est administratif, effectivement, on continue à payer à temps plein.
Les gros enjeux dans la fonction publique territoriale, pour l'instant, ce n'est pas tellement d'augmenter les charges.
Non.
Sachant que vous avez peut-être vu les dernières enquêtes, je ne sais plus dans quel journal, Languedoc-Roussillon et la région avec la Corse, la région de France, où le nombre d'emplois de fonctionnaires publics territoriaux par habitant est le plus élevé. Déjà, quand on ajoute les collectivités, les communes, les EPCI, les départements.
Vous le savez, ça.
Voilà, donc. Et puis, donc, les charges de structure, ben voilà, c'est tous les. C'est au-delà des salaires, c'est toutes les dépenses liées, ben voilà, transversales, téléphone, liées à ces, justement à ces fonctions support. Voilà, donc la CLEC, ouais.
Donc ça, c'est validé donc, par la CLEC.
Oui.
D'accord. Donc le total des charges nettes transférées est de 173 891 euros. Le montant des attributions de compensation 2014 reversé par la GLOS, 10 527,18 €. Ce qui fait que le montant de notre AC définitif est de 163 436,34 €.
Arrête de corriger. Il y a un chiffre qui n'est pas bon.
C'est pas bon.
On va le corriger tout de suite là. C'est une ancienne diapo qu'on a mis. Donc à la fin, on arrive à un calcul. On va le revenir. Ouais. Ouais. C'est pas la bonne.
Non, le dernier, c'est ce qui est mis dans le.
C'était 300.
Voilà. C'est la différence. On a fait une petite erreur.
Et les 700 euros de. Mais non, mais là, c'est le bon parce que vous n'avez pas vu 700 euros dans le. Il faut changer 700 euros aussi dans la.
Non, mais non, maintenant, là. Bon, on va faire un petit chemin. Ce qui est important, c'est le montant de 173 990,52 €. Voilà. Et moins les 10 527 qui sont les attributions de compensation. 90,52 €. Qui sont les attributions que jusqu'à présent la GLO reversait. Et donc maintenant on arrive à un montant définitif de 90,52 €.
Je comprends pas.
Logiquement, le premier moins le deuxième fait le troisième. Le deuxième est bon, le troisième est bon. 963, c'est ça.
Oui, c'est ça.
962. Excusez-moi, on s'est mélangé les pinceaux dans la dernière jette. Bon. Donc, on va revenir maintenant. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au point 1, qui est l'adoption du rapport ? Donc, il consiste essentiellement ici à adopter la méthode de calcul et le résultat que ça donne sur l'objet de Montpellier. Donc, on va aller relire les méthodes. Donc, un ensemble de méthodes réglementaires et méthodes dérogatoires appliquées aux différentes compétences et qui permet d'arriver à ce résultat donc de 113 963,52 €. Qui sera ensuite, dans son déduit, les 10 527,18 €. Donc là, vous avez eu de toute façon ce rapport par, vous l'avez reçu par mail. Oui. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe au vote sur ces méthodes ou des observations sur les méthodes de calcul? Bon, dans ce cas-là, on va passer au vote. Donc, pour l'adoption du rapport de la CLECT, donc de septembre 2015, relative à l'évaluation du transfert de charges que l'on fait dans le cadre de la métropolisation, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, est adopté à l'unanimité. Alors, maintenant, le point 2 porte sur les attributions de compensation définitive pour l'exercice 2015. Donc là, c'est le tableau de l'ensemble des communes. Parce qu'on n'a pas l'ordinateur. Donc, vous avez dans le rapport de synthèse un tableau qui rassemble l'ensemble des calculs, des montants qui ont été calculés pour les 31 communes. Et ce qui vous est demandé, c'est de voter ce tableau. Le premier point donc, portait sur la méthode de calcul et sur le montant donc, qui en découle pour Mauvielle. Là, dans le deuxième point, il vous est demandé d'adopter l'ensemble des résultats portant. Donc, vous avez sous les yeux ce tableau. Donc, certaines communes, jusqu'en 2014, se voyaient verser par la métropole des attributions aux communes. D'autres communes, au contraire, reversaient déjà les attributions de compensation à l'agglomération, en fait, hein, auparavant. Ça, c'était surtout le jeu des anciennes taxes professionnelles qui faisaient qu'il y avait ces différences entre communes. Et donc, la quatrième colonne donne le résultat à chaque fois qu'il y a chacune des communes, en plus et en moins entre l'information et l'attribution de compensation et puis les reversements qu'on doit faire de la vente pour faire compter l'attention.
Oui,
est-ce qu'il y a des remarques sur ce tableau?
C'est rien à la métropole.
Peut-être parce qu'elles ont. Elles ont eu.
Il y a des communes qui se voyaient reverser une attribution de compensation par l'ABLO à la commune, très importante, surtout les communes qui avaient des fortes taxes professionnelles. Aujourd'hui, on a calculé chez elles le montant de l'attribution de compensation qu'elles doivent reverser au moment de la transfert des voiries, etc. Et le solde des deux fait que c'est toujours la métropole qui leur reverse. Hein, ça tout dépend du montant qu'elles avaient au départ. Donc, les deux premières colonnes.
C'est pas grave, vous l'avez vu.
La Vérune, on comprend pourquoi, il y avait Jacques Vabre sur leur... Voilà. Donc ce sont des communes qui se voient amoindrir aujourd'hui le transfert qu'elles avaient jusqu'à présent qui provenait de la
Et Saint-Georges, c'est pourquoi c'est beaucoup moins?
C'est très bas.
Ben, c'est pour les mêmes raisons, hein?
Non.
Ben non, 135 000,
c'est rien.
Il touchait auparavant 584 000, c'est la même raison. D'accord. C'est une commune qui percevait, hein, ils sont dans la première colonne, qui percevait une attribution de compensation importante. Une fois que l'on déduit celle des calculs qu'on a faits, ils ne reversent, donc on peut faire la différence. Hein. Avant, ils recevaient 584 000, ouais. C'est un reste dû.
Et pour des communes de taille, j'allais dire, un peu comparable à Mauvielle, il y a des trucs que je ne comprends pas non plus. Là, Cournonsec, par exemple.
Cournonsec est plus important.
Oui, c'est pas la taille de
Mauvielle. Oui, mais tu as vu la différence. Là, oui, d'accord. Mais regarde, là. C'est énorme, là.
Intermarché.
Ah ouais.
Il y a Joulier.
C'est pareil, on est dans le même système, c'est encore
mieux. Voilà, à chaque fois, regardez bien la première colonne, vous voyez un petit peu le montant que les communes touchaient auparavant de la part de l'ABLO. Pour Nonsec, touchait avant
94.
Aujourd'hui, il verse 22 000, c'est-à-dire qu'en réalité, le montant de ces voiries était de l'ordre de 300 000 euros. Et donc, quand on fait la différence, on arrive là-dessus. Mauvielle, auparavant, ne touchait que 10 000 euros.
Là, on a plus...
Est-ce qu'il y a des observations, d'autres observations ?
Alors la métropole, si quand même, disait avec Nathalie, se réserve le droit de revérifier tous les chiffres qui ont été communiqués par les communes.
Ah.
Parce qu'il y a quelques municipalités qui n'ont peut-être pas tout bien déclaré.
Volontairement ou
inconsciemment ?
Non. Et donc,
moi la question c'était effectivement quels moyens, parce que c'est du déclaratif de chacune des communes, et donc quels moyens la métropole se donne de vérifier ce qui est remonté, quoi. Tu vois, la question c'était ça, parce que je pense que... Ouais, d'accord. Ce qui est bien aussi. Donc ça veut dire que ça peut être révisé, ces montants-là. Voilà.
Mais disons que les méthodes de calcul sont adoptées, elles ne bougeront plus. Ce qui peut être révisé, c'est un montant à la lueur, par exemple, d'une donnée de base qui aurait été fausse, quoi. Mais la méthode de calcul, les méthodes de calcul ont été adoptées.
Oui, on nous demande de voter quelque chose qui n'est pas définitif, en fait, alors, si je comprends bien. Parce que le tableau risque d'être révisé.
C'est uniquement, dans ce cas-là, on nous demandera de revoter, bien entendu, s'il y a une modification. Il y aura aussi sans doute des modifications liées aux investissements dans le tourisme, comme vous le disiez. Mais on ne reviendra plus sur les méthodes de calcul. S'il n'y a pas d'autres questions ou observations, je vais mettre au vote. Donc je vous demande d'approuver le montant des attributions de compensation définitives qui apparaissent donc dans ce tableau. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, les montants d'attribution de compensation définitive sont adoptés à l'unanimité des présents. Et donc, on passe au point 3 qui porte sur le schéma de mutualisation de Montpellier, Métropole et ses 31 communes. Et on va demander cette fois un avis au conseil municipal. Donc, ça, ce point renvoie à ce document qui vous a été envoyé. Peut-être qu'après que ce point soit abordé, pour les personnes qui sont en public, on pourra le faire tourner. Comme ça, vous pourrez voir, on pourra en donner un midi libre. Donc, ce schéma de mutualisation, c'est une obligation juridique qui est prévue par la loi de réforme des collectivités territoriales de 2010 et qui prévoit que toutes les communes et leur intercommunalité, donc je veux dire, quelle que soit l'intercommunalité, qu'il s'agisse d'une communauté de communes, d'une agglomération ou d'une métropole, une communauté urbaine ou métropole, toutes doivent initier avant la fin de l'année 2015, un schéma de mutualisation des services. Donc là, l'objectif poursuivi est clairement d'aller vers plus de mutualisation des moyens, des services, pour à la fois être plus efficient et faire mieux, plus, avec autant, on va dire ça comme ça. Et donc, et surtout, je pense, faire en sorte que les services s'enrichissent les uns des autres et partagent aussi leur expérience. Donc, on a, dès qu'il y a eu le processus un peu de transformation de l'agglomération en métropole, on a, je dirais, entre maires, c'était dans le cadre de la conférence des maires, qu'on a beaucoup, je dirais, insisté sur cette question de mutualisation et que ça fait se faire dans le cadre d'un pacte de confiance. On en a déjà parlé à plusieurs reprises, ce pacte de confiance que l'on a établi entre maires. Et dans ce pacte de confiance, on a justement inscrit le fait que la métropole était vue comme une sorte de coopérative de services pour les communes. Et donc, la métropole, en fait, elle est à la fois un lieu où il y a cette coopérative de services pour les communes et où on réfléchit à des projets en commun. Et donc... les mots-clés qui étaient un petit peu sous-jacents à cette décision-là, c'était solidarité et coopération. Il y avait cette logique de coopérative. Alors, j'ai dit, c'était une expression qui avait dans le texte du pacte de confiance des maires. C'était l'ADN du projet métropolitain. Donc, il y a ce souci donc de mutualisation, de coopérative et de construction de projets communs. Et puis le deuxième objectif, comme je vous le disais, c'est un souci de rationalisation des moyens face aux dotations des aides de l'État, bien entendu. On ne va pas revenir là-dessus. Et c'est un des objectifs essentiels du schéma de mutualisation. Donc en fait, ce qu'on regarde aujourd'hui dans ce document, c'est une feuille de route en fait. Hein, ce n'est pas encore un plan d'action définitif. Ça va encore, bien entendu, évoluer et ce sera encore, bien entendu, soumis à vote dès lors qu'on prendra des décisions. Là, c'est plutôt une feuille de route qui est soumise pour avis. Et là, peut-être que Nathalie pourra en dire un mot, mais c'est un énorme travail qui a été fait par les DGS, des 31 communes qui se sont réunies. Si, 31 communes qui se sont mis en groupe de travail, différents groupes de travail, pour travailler sur deux choses, à la fois sur un état des lieux de ce qui existe déjà aujourd'hui en termes de mutualisation, il y a déjà beaucoup de choses qui se font, et une deuxième partie qui consiste en ce qui pourrait être fait pour aller plus loin dans un deuxième temps. Donc autour des mutualisations déjà existantes sur des services mutualisés déjà actuellement, on peut dans ce cadre-là aller un peu plus loin, et il y a des nouveaux services, des nouvelles activités qu'on peut imaginer mutualiser à terme. Peut-être Nathalie, tu veux en dire un mot, vu que tu as participé à certains groupes de travail.
Très bien.
Peut-être on peut...
Donc la partie 1, c'est ce qui existe déjà.
Voilà.
La partie 2, c'est ce qu'on a envie d'atteindre, enfin de développer, hein, c'est ça.
Alors, ce qui existe déjà, si vous regardez très rapidement, c'est déjà la plateforme d'e-administration. Donc, c'est une plateforme sur laquelle on a accès sous forme numérique de beaucoup d'opérations que l'on peut numériser. Pour l'instant, par exemple, il y a une opération intéressante qui est ce qu'on appelle la signature numérique des maires pour tout ce qui est les actes administratifs signés par le maire. Et là, par exemple, c'est la métropole prend en charge, donc il y a un cabinet qui fait ce travail-là, la métropole prend en charge une partie des dépenses liées à cette plateforme-là. Il y a une plateforme sur les e-marchés, donc que connaît bien Nathalie. Les e-services, c'est tous les services aux citoyens pour pouvoir télécharger tous les formulaires du citoyen qu'on trouve habituellement en mairie, etc. Vous avez l'ensemble des choses sur la commande publique, sur les archives, etc. Ça, c'est des choses qui existent et qui vont être développées. Et ensuite, il y a eu toute une liste de pistes de coopération nouvelles. Et il y a des choses qui, nous, à mon avis, peuvent nous intéresser fortement à Murviel, parce que jamais une commune comme celle de Murviel ne pourra, des petites communes ne pourront développer ce genre de compétences. C'est par exemple sur tout ce qui est les affaires juridiques. Le fait de pouvoir mutualiser à terme des services d'appui juridique aux communes, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. La même chose sur l'informatique. Pourquoi pas sur la gestion des RH, des ressources humaines, sur la communication, etc. Et même, Nathalie, il y a un sujet sur lequel tu as travaillé, c'est celui autour de l'enfance et de la jeunesse. Tu peux peut-être dire un mot.
Oui, c'est une des thématiques qui a été abordée, puisqu'il a fallu se partager le travail. Donc moi, j'avais la culture et la jeunesse. Et voilà, donc effectivement, ça fait partie des choses qu'on peut envisager. Sur les RH, il y a déjà des groupes de travail qui se mettent en place pour essayer d'organiser aussi la mutualisation. Maintenant, l'idée, c'est que chaque collectivité fasse part de ses besoins, de ses envies en termes de mutualisation, quelle qu'elle soit, que ce soit du groupement commun à la recherche de mise en place de politiques concertées. Et puis, lance la mutualisation. Différentes thématiques, et après l'idée c'est justement chaque année d'évaluer un peu le travail qui est fait par les collectivités, que ce soit métropole-ville ou métropole-collectivité ou commune entre elles sur des territoires qui sont proches, peu importe, c'est à la carte, chacun fait comme il veut, mais partout on peut trouver dans le bon sens une façon de travailler en commun qui rationalise un peu les choses, toutes les initiatives sont bonnes à prendre.
Dans le domaine de la culture, il y a un sujet sur lequel vous avez travaillé, qui est celui de l'enseignement musical, peut-être.
Qui est en cours, en fait. Qui a démarré l'année dernière. Sur le travail, qui sont aujourd'hui à l'état d'état des lieux en fait, de l'offre. C'est ce que j'allais dire, en fait, c'est un sujet qui peut être parfois un peu délicat parce qu'il ne s'agit pas seulement de mutualiser là, des services existants, ils sont portés par des structures très différentes, associatives, municipales, régionales, enfin,
interconservatoires.
Là, en l'occurrence, la question de mutualisation, elle passe aussi par l'acceptation des structures en place de mutualiser, bien sûr, une partie de leur offre. Donc les communes doivent décider, les associations doivent décider de se faire ensemble. Ce n'est pas des services déjà existants au sein des structures administratives, en fait, quoi. Mais la question est évidemment tout à fait intéressante, parce qu'il y avait un danger des structures en place de toute façon, et la question c'est d'offrir quand même, de permettre, de favoriser en fait une équité sur un territoire, et que l'ensemble des acteurs puissent avoir accès à l'éducation musicale. Et comme l'a dit Nathalie, c'est pas forcément une centralisation par exemple par le conservatoire, mais c'est éventuellement un rapprochement de structure au sein de la Quest par exemple, une mutualisation qui existe déjà en travers de l'internet par exemple. Mais c'est aussi ce type de solution, on va dire, plus locale qui peut être mise en place. Donc ça c'est un sujet intéressant. Mais il est à cheval administratif politique. Il y a des questions qui sont très administratives parce que les services existent et il suffit de les partager. Il y a des questions politiques qui se posent dans certains cas, bien sûr.
Bien sûr. Est-ce qu'il y a des...
Ben moi, je trouve ça dommage qu'au niveau du social, il n'y ait rien. Voilà. Et on va se retrouver encore dans
le même compétences. Parce que je sais que sur la culture, par exemple, ça pose des questions.
Non, mais voilà, mais c'est toujours le même problème.
Parce que c'est des compétences qui n'ont pas été transférées non plus. Alors, soit elles sont départementales, soit elles sont communales et pas transférées à la métropole. Donc, c'est aussi délicat. Tu vois, culture, on est à cheval. On peut se poser la question de mutualisation, mais les compétences n'ont pas été transférées. Donc, de toute façon, les communes restent.
On aurait très bien pu mutualiser, par exemple, les services sociaux.
Ouais, mais la métropole n'a pas de compétences.
Ça a été abordé, ça fait partie. Non, mais
ça peut être.
C'est en réflexion, par contre.
C'est pas dans leurs compétences.
Là, c'est juste la première.
Non, mais l'idée, c'est de profiter. Il y a opportunité éventuellement de profiter de cette espèce d'appel d'air là, et d'envie de mutualiser pour aussi insérer des sujets qui ne sont pas.
Oui, parce qu'il y a plein de sujets qui ont été abordés qui figuraient parmi les prospectives et les perspectives. Mais comme ce n'était pas suffisamment abouti, ben voilà, ça ne figure pas dans le schéma, mais c'est un document qui est amené à évoluer. Donc après, justement, toutes les réflexions qui pourront se faire sur différentes thématiques que l'on n'a pas pensé encore sont bienvenues.
Oui, sur le logement.
Est-ce qu'il y a d'autres observations sur ce schéma?
Ça bouge, qu'on arrête.
Hein? C'est comment ça va évoluer, enfin, comment on sera tenu au courant des évolutions, est-ce qu'il y a un point qui sera fait en fin d'année?
L'idée, c'est que le groupe de travail qui pilotait ce schéma continue à se réunir pour initier les mutualisations, accompagner les collectivités qui le souhaitent dans leur démarche de mutualisation. Et il y a une évaluation annuelle obligatoire des actions portées. Okay. Donc, alors je ne sais pas si ça, probablement que ça remontera après au sein des conseils municipaux.
Oui.
L'idée, effectivement, c'est de tirer un petit peu les conclusions de ce schéma, sachant que l'objectif, c'est pas que de la rationalisation financière, hein, c'est aussi à travailler et apprendre à travailler différemment. C'est pas évident de travailler à plusieurs.
Oui. Je crois que c'est déjà une
autre
façon
de fonctionner.
Donc c'est
déjà pas mal, c'est une autre façon d'envisager.
C'est assez intéressant, certains thèmes.
Voilà.
Je disais là, mutualisation des salles de spectacle, on a encore aujourd'hui, nous seulement, certains qu'on rencontre, quand tout le monde est encore « je veux ma salle de spectacle », quoi. Il va falloir qu'il y ait quand même des communes qui évoluent, quoi. Enfin, les élus évoluent un peu, quoi.
Pareil pour les équipements sportifs, on peut se poser la question sur le territoire. Et tout ce schéma, voilà, sert aussi un petit peu à contextualiser.
Alors qu'il y a des choses au niveau sportif qu'on a vues, enfin, qu'on a échangé, nous, avec d'autres élus qui sont très intéressantes. Les uns ont plutôt investi sur l'activité rugby, les autres sur basket ou je ne sais plus quoi. Et du coup, il y a chacune, au niveau des subventions, c'est intéressant. Des reversements aussi, parfois, ou bien, du coup, ça planit aussi. Non, mais il y a effectivement une évolution dans la façon de raisonner chacun dans notre petit bled.
Il est prévu que chaque année, pour répondre à la question de Laurent, lors du débat d'orientation budgétaire, ou à défaut lors du vote du budget, l'avancement du schéma de mutualisation fera l'objet d'une communication du président de la métropole à son organe délibérant. Donc, la communication sera faite en conseil métropolitain et reviendra en conseil métropolitain. Et donc là, il nous a demandé, donc les schémas de mutualisation ont été communiqués le 12 septembre, donc on doit, les communes doivent se prononcer dans un délai de 3 mois. donner un avis. Et ensuite, le conseil métropolitain, lors de son conseil de décembre, adoptera le schéma de mutualisation sur la base des avis prononcés par les communes, le conseil municipal. S'il n'y a pas d'autres questions, observations, donc je vais demander au conseil d'émettre un avis sur le projet de schéma de mutualisation des services que vous avez reçu. Donc, qui émet un avis défavorable ? Qui s'abstient ? Donc, un avis favorable est accordé, à, est émis à l'unanimité des présents. Donc, on va passer au point 4, qui porte sur le fonds de concours. Donc, on est toujours dans les questions métropolitaines. Le fonds de concours entre la commune de Muriel-les-Montpellier et Montpellier-Méditerranée Métropole. Alors, c'est une délibération que l'on prend à la demande de la métropole et qui vient annuler et remplacer la précédente délibération du conseil municipal en date du 5 juin 2015. En fait, c'est une toute petite modification qu'on vous demande de faire, mais qui est nécessaire pour qu'ensuite on puisse régler les comptes avec la métropole. Donc, les investissements concernent en 2015, transférés, grosso modo, hein, les plus grosses concernent l'esplanade des droits de l'homme. Donc, pour l'instant, ce sont des études hein, qu'on a payées, on n'a pas encore entamé les travaux. Et intervenu entre-temps, ce qu'on appelle les fameuses CatNat, les réfections des chemins liées aux catastrophes naturelles de l'automne 2014.
On ajoute l'antenne aussi.
Et on ajoute l'électrification de l'antenne téléphonique où la commune prend en charge 30 000, enfin, dans le cadre de la convention transitoire, au compte de la métropole, prend en charge les 30 000 euros d'électrification. Donc, on avait un fonds de concours de 33 000 euros, ça, hein, 35 000 euros, voilà, c'est ça, prévu initialement. Et en fait, avec la réalité des dépenses et des marchés que l'on a au final, va être descendu, ce montant de fonds de concours, à 33 000 euros.
Parce que sinon, on était excédentaire, en fait, par rapport à notre plan de financement. Donc, l'idée, c'était que les 2 000 euros, on était excédentaire, 2 000 euros. Mais, voilà, pour pouvoir avoir un budget correct. On baisse un petit peu notre participation.
Voilà. 2000 euros, c'est 2000 euros en plus, oui, hein, donc c'est fait. Important. Voilà. Donc nous vous demandons d'approuver le versement d'un fonds de concours d'un montant prévisionnel de 33 000 euros. Donc pour la réalisation de cette opération, en réalité ça comprend l'ensemble des trois opérations dont je vous ai parlé. D'approuver la convention que l'on signe avec la métropole définissant les modalités de mise en œuvre de ce fonds de concours et de m'autoriser à signer tout document afférent, notamment la convention et approbation concordante. Alors vous savez qu'à chaque fois que l'on fait ce type de délibération au conseil municipal, il y a de façon concordante en conseil métropolitain des délibérations croisées. Et ça sera le 12 novembre. Est-ce qu'il y a des observations, des questions par rapport à cette affaire ? S'il y en a, donc je passe au vote. Donc pour l'approbation du versement de ce fonds de concours, de la convention et m'autoriser à signer cette convention, qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc la délibération est approuvée à l'unanimité des présents. Je vais donner la parole à Serge Boulet pour le point 5 qui porte sur la tarification des prestations de garderie périscolaire et puis aussi les prestations de tarification des prestations de cantine.
Alors sur le temps de garderie au centre de loisirs, on a une tarification d'un euro par temps de garderie, c'est-à-dire enfin, par inscription, que ce soit le matin de 7h30 à 8h30 ou le soir de 17h à 18h30. Sauf le mercredi, puisque le mercredi après-midi c'est un temps de loisirs, un centre de loisirs. Donc il s'agit ici pour nous de régulariser deux situations. La première, c'est que le mercredi midi s'est instauré un peu naturellement un temps de garderie à la demande des parents, puisque les enfants sortent de l'école à 11h45, c'est-à-dire 10 minutes plus tôt que les autres jours. Et les parents souhaitent pouvoir récupérer les enfants entre 11h45 et 12h30 au centre de loisirs sans les inscrire à la cantine. Donc c'est ce qui est fait depuis plusieurs mois, simplement puisque ce temps de garderie existe, il s'agit de le tarifer comme les autres temps de garderie, au tarif d'un euro. Donc ça, c'est la première demande qui est faite. Et puis la deuxième, elle est relative au temps de garderie du vendredi, puisque, comme vous le savez, la réforme des temps périscolaires, des rythmes éducatifs, prévoit que les communes doivent mettre en place 3 heures de temps périscolaire, de temps d'activité périscolaire par semaine, et à Murvielle, depuis le départ, on est parti sur 4 heures. Et il se trouve donc que le vendredi est traité comme les autres heures, c'est-à-dire gratuitement, puisque les tapes à Murvielle sont gratuites. Et donc le vendredi, qui en fait est un temps de garderie, est gratuit. Donc il s'agit de mettre en place la tarification comme les autres jours, mais de la mettre à partir de 16h. Et donc la garderie sera tarifée 1 euro le vendredi à partir de 16h jusqu'à 18h30. Voilà.
Est-ce qu'il y a des questions ou des observations
par rapport donc au tableau, déjà je vois qu'il y a lundi, mardi, jeudi, soir. Il n'y a pas marqué les horaires là, de 17h à 18h30 par rapport aux autres au-dessus. Là. Et sans être pour ou contre la tarification, juste remarquer que la majorité des enfants de 16h à 17h vont maintenant payer 1 euro. Et pour les quelques dizaines en plus qui sont de 17h à 18h30, la tarification donc de 16h à 18h30 restera 1 euro. Donc il y a un manque de cohérence dans le sens où le temps de garderie va durer 2h30 au lieu habituellement de 1h ou 1h30. Donc c'est presque une demi-journée pour eux de tarification qui sera tarifiée à 1 euro. La majorité va payer 1 euro pour, de 16h à 17h. Et l'autre remarque que je voulais faire, c'était que cette décision va être prise de façon isolée, sans avoir une vision globale des recettes et des dépenses du secteur enfance-jeunesse. Et du coup, voilà, la décision, elle n'est pas tout à fait éclairée, puisque c'est sur un point isolé, on ne voit pas la globalité.
Juste deux éléments de réponse. Le premier, c'est que nous, on a considéré que du moment qu'il y avait une inscription à un temps de garderie, quelle que soit la durée de garderie de l'enfant, l'enfant il peut arriver à 8h25 et repartir à 8h30 à l'école, il va payer 1 euro. Mais il peut rester aussi 1 heure. Donc, on ne fait pas de distinction. Alors, effectivement, il peut y avoir des vendredis des enfants qui arrivent à 16h et qui repartent à 18h30. Puis il y en a qui arrivent à 16h et qui repartent à 16h05. Ils vont tous payer 1 euro. Donc on ne sait pas dire qui paye quoi, mais en tout cas on instaure des temps de garderie qui sont tous facturés de la même manière, sans préjuger du temps pendant lequel reste l'enfant. Alors celui qui est resté 2h30, ben, tant mieux pour lui, parce que pour le coup, lui, il n'aura payé qu'un euro, et puis celui qui sera resté 5 minutes, ben, lui, il n'aura payé qu'un euro. Mais il pouvait rester 2h30.
Mais ça, c'est pas cohérent avec les autres, où les temps de garderie sont de 1h le matin, le mardi, mercredi midi, c'est à peu près 1h aussi. Tous les soirs, c'est 1h30.
On peut passer à 2 euros. On peut passer à 2 euros, mais il faut pas y...
Je dis juste, c'est pas pour.
C'est des temps de garderie, donc on propose... C'est des inscriptions.
Plages.
C'est des plages. On s'inscrit et l'inscription au temps de garderie est d'un euro. Alors peut-être qu'effectivement, quand on sera plus éclairé par les recettes, peut-être qu'il faudra monter. Je ne sais pas si c'était ton souhait, mais effectivement, ça peut être une idée.
Faire
gratuit.
Je crois que c'est là où il y a une ambiguïté. C'est que quelque part... On met à plat quelque chose qui était finalement un temps de garderie sans le reconnaître pour les parents et pour les usagers comme un temps de garderie. S'il y avait une confusion entre TAP et finalement ce n'était pas une proposition d'activité périscolaire puisque ce n'était pas selon un calendrier, un planning comme les autres jours, quoi. C'est toujours difficile. Je comprends la remarque de Mylène, c'était quelque part un acquis pour les parents qui n'était pas un acquis à juste titre par rapport aux autres jours de la semaine. Quoi.
C'est comme tout, c'est un choix politique par rapport à un ensemble de dépenses et de recettes sur le domaine.
Ah oui, évidemment.
Murvielle est une des rares communes de la métropole à faire la gratuité d'étape. On est une des rares. Je ne sais pas, Serge, combien on est au final, mais il n'y en a plus beaucoup. Même Gradel, qui est une ville très sociale, facture ses tapes. Donc non seulement OK pour la gratuité des tapes,
mais en plus faire la gratuité de la garderie au-delà des 3 heures que nous impose l'État, qui n'ont pas été négociées avec les communes, puisque c'est sur le budget des communes, et on vous montrera l'impact que ça a eu sur la masse salariale, mais c'est énorme, parce que maintenant il va falloir qu'on prenne des décisions graves, et ça ce sera au prochain conseil municipal. Donc là, je pense que c'est pas un choix politique, c'est simplement pour moi régulariser quelque chose qui n'avait pas été fait en son temps. Ça va peut-être être un tout petit peu douloureux pour certaines familles, ça que je ne joue quand même pas sur des cas énormes. Alors après, qu'on module le tarif de la garderie en fonction de la durée de présence des enfants en garderie, on va dépenser plus en coûts de gestion et de suivi de ça que dans les recettes qu'on va avoir.
Non, c'était que c'est pas convenable par rapport aux autres temps.
Hein, mais les autres, le midi, c'est le mercredi, c'est pareil, c'est 3 quarts d'heure au lieu d'une heure. Dire les plages.
Il y a des parents, ils donnent 1 euro pour 10 minutes et il y en a, ils ont besoin du 3 quarts d'heure.
Déterminer des
plages horaires, ne sont pas les mêmes.
C'est un choix qui a été
fait. C'est gênant ça.
C'est un choix qui a été fait de facturer.
Ouais, moi j'entends ce que tu dis, mais moi ça me semble pas gênant. Après, moi je dis tant mieux pour l'enfant qui sont là à 16h10
exactement. Tu prends le tram, tu que tu descends à une station ou à 5 stations, tu payes 1,50.
Mais c'est un choix qui
est. C'est pas ça que je remercie.
Non, mais je veux dire, toi, il n'y a pas un système juste, tu ne peux pas faire payer à la station, tu peux faire. Voilà,
c'est un choix qui a été fait de facturer la prestation 1 euro. On a choisi de facturer à l'heure.
Ça aurait été plus cher.
Mais là
c'est un choix à la prestation. Et pas à l'heure. Mais c'est vrai qu'à l'heure.
On a pu faire à l'heure. Hein.
Non, ça entraîne des coûts de gestion énormes.
Puis il faut le gérer.
Il faut le gérer, après il faut l'inscription, il faut le contrôle.
Non, mais une garderie, ça veut aussi dire du personnel. Donc c'est aussi des frais.
Ok, mais ça fait une garderie de 2 heures.
Et qui reste 10 minutes. Oui, mais qui reste 10 minutes ou 1 heure ou 2 heures, si tu veux,
la personne, elle est là.
Elle est là.
Si tu factures 1 euro 2 heures et demie de garderie, alors qu'habituellement c'est 1 euro pour 1 heure et demie maxi. Voilà, c'est tout.
C'est des bons choix politiques alors. C'est des bons choix politiques. Alors ça veut dire que quelque part, c'est
cher,
pas assommer les gens qui sont obligés d'avoir.
Ça n'assomme pas que ceux qui restent à 5 heures. À 5 heures. Mmh. Après, il y a une majorité qui va payer maintenant.
Est-ce qu'il y a d'autres observations par rapport à cette question des tarifs de garderie? Alors, je vais passer au vote. Donc, pour l'approbation des nouveaux tarifs proposés, c'est-à-dire l'instauration d'une facturation de 1 euro pour la garderie du mercredi midi et 1 euro pour la garderie du vendredi soir, qui se prononce contre? Donc, un vote contre. Qui s'abstient? François Deissy, une abstention. Donc les tarifs sont adoptés à la majorité. Et on passe au point 6. On a compté.
Donc sur la restauration scolaire, vous savez qu'à partir de lundi, c'est un nouveau prestataire qui va venir servir le repas. C'est la société SHCB qui est basée à Servien. J'insiste aussi pour expliquer la suite, c'est que on a fortement travaillé sur le cahier des charges. Qui sont faites en la matière auprès des professionnels. Donc, on est plutôt en avant sur ce sujet-là. Et donc, on a retenu SHCB qui était le mieux disant sur tous ces critères-là, parmi les 3 candidats au total. À ce moment où on change de prestataire, on a trouvé nécessaire, et alors que la tarification aussi qui est appliquée à la commune évolue, puisque la tarification augmente de 15 centimes pour la commune, nécessaire et voire même indispensable de changer les critères de tarification qui aujourd'hui et depuis très longtemps, puisqu'on n'a pas su retrouver depuis quand ça datait, la tarification repose des tickets tantines ne repose que sur un seul critère qui est le nombre d'enfants à charge dans la famille, non pas le nombre d'enfants qui déjeunent mais bien à charge. à savoir un enfant pour 3,70€, deux enfants 3,55€ et trois enfants 3,40€. Donc notre objectif c'était de retrouver peut-être un peu plus d'équité sociale en mettant en place une tarification qui est aussi assise sur les revenus des familles, de sorte que la solidarité ne joue pas, comme jusqu'à aujourd'hui, au détriment des familles les plus modestes, puisqu'il faut savoir qu'ils payent, c'est eux qui payent proportionnellement à leurs revenus de loin le plus, et c'est eux qui font l'effort d'assumer des prix de repas au même prix que ceux des familles supérieures, hein, puisque le rapport peut être de 1 à 5, voire même, on a étudié la question, on a des écarts de 1 à 10 dans les revenus, mais tout le monde paye la même chose, ce qui est assez étonnant. Alors il faut savoir, j'insiste aussi sur ce point-là, c'est qu'on n'a aucune famille dont les revenus sont les plus faibles qui sont venus nous faire la remarque que c'était injuste. Donc ils ont, voilà, personne n'est venu réclamer, ni est venu protester, mais pour autant, ça paraît évident pour tout le monde qu'il faut redistribuer ces prix et de manière plus équitable. Et donc on a souhaité faire un effort envers les familles les plus modestes en allant jusqu'à diminuer les prix de 20 centimes pour la première tranche de revenus, de neutraliser l'augmentation des tarifs que va supporter la commune pour la tranche suivante, et puis ensuite pour les tranches supérieures, voire très supérieures, d'appliquer des augmentations progressives, de sorte que le prix le plus élevé pour la tranche très supérieure sera de 4,35€ contre 3,70€ aujourd'hui. Et le repas le plus faible pour la famille, pour les familles dans la tranche inférieure qui auraient 3 enfants à charge serait de 3,20€. Donc on passe d'écart de 3,40€ à 3,70€, c'est-à-dire des écarts de 30 centimes à des écarts de 1,15€, ce qui paraît un petit peu plus cohérent. Voilà, donc ce qu'on peut préciser, c'est que pour les... Si on parle en termes de contribution pour les familles, ça va permettre aux familles, pour les revenus les plus faibles, de faire une économie, entre guillemets, de 4€ par enfant qui déjeune. Et pour les familles dont les revenus sont les plus élevés, de faire un effort mensuel de 13€. Sachant que pour ces familles les plus élevées, 13€, c'est... Donc ça reste très très modeste. Voilà, donc la prise d'effet, on aurait souhaité que la prise d'effet soit au 1er décembre. Auprès des familles.
Oui.
Moi, j'ai deux questions par rapport à une fourchette des revenus. Comment vous avez calculé pour... deuxième à 3,55, à 35, non, je pense qu'il n'y a pas une cohérence au niveau de...
En fait, la famille va nous déclarer ses revenus, elle va nous déclarer le nombre d'enfants qu'elle a à charge.
Tout à l'heure, pour les bas revenus, c'est 15 000€ par foyer fiscal, par an, oui. Et par rapport au nombre d'enfants aussi.
Oui, c'est deux critères.
Comment vous allez contrôler tous les...
On demande les déclarations d'impôts, les
obligations. Comme toujours.
Ça, c'est demandé par la CAF en plus. Hein,
C'est déjà le cas actuel. Ouais.
Ils ont
déjà
les centres
de l'Asie. Avec ces changements, est-ce que vous avez calculé par rapport au budget global, c'est-à-dire les recettes,
ouais.
Est-ce que vous avez calculé par rapport aussi sur une augmentation, sur une diminution, je sais pas,
Non, c'est une simple distribution.
C'est quoi exactement?
Le but, je viens d'expliquer, en fait, c'est de recréer une équité sociale en tenant compte des revenus des familles, mais ça reste tout à fait neutre en termes de ressources générées. C'est simplement qu'on a redistribué à l'intérieur par type de revenu et non pas seulement par famille.
Cette évolution permet d'absorber les 15 centimes supérieurs liés au nouveau prestataire par repas, mais ne génère pas de bénéfices de marge supplémentaire. Ça a été un débat entre nous. Donc, on absorbe l'augmentation du prestataire, mais la commune ne fait pas de bénéfices supplémentaires. Par contre, on instaure cette variation. Pour votre information, la plage des moins 30 000
fait environ 30%, un tiers, c'est un tiers des familles. Les 30-50 000, c'est un tiers. Et les plus de 50 000, c'est un tiers. Donc, jusqu'à, avec ce choix, jusqu'à 30 000 euros par an, par foyer fiscal, il n'y a pas d'augmentation des tickets. Il y a même diminution pour les tranches les plus faibles. Alors que la prestation de la cantine va s'améliorer.
Finalement, c'est la même chose qu'avant. Mais pas au même prix.
Donc l'idée, c'est vraiment qu'une alimentation de qualité, locale, soit accessible, sans générer un coût supplémentaire pour les revenus les plus faibles. Et on a estimé que c'était jusqu'à 30 000 euros. On mangera, les enfants mangeront, on l'espère, mieux en payant autant ou moins. C'est de la solidarité entre les revenus. Non. Hein,
parce que ces prix sont valables par année, ça va être discuté chaque année en fonction
des. Alors là, c'est un tarif qu'on adopte jusqu'au 31 décembre 2016. Et on verra à ce moment-là si. Juste un point que Serge n'a pas dit, c'est que depuis 2009, date de la dernière révision des tarifs, il y a eu quand même 7,8% d'inflation. Et on continue à absorber cette inflation. On n'a pas, on aurait pu choisir d'augmenter les tarifs, de profiter de l'occasion pour augmenter aussi de 7,8% l'ensemble des tickets. Ce qu'on n'a pas fait. Donc, c'est un choix de subventionner encore plus en ne faisant pas le choix d'augmenter simplement en prenant l'inflation. Parce qu'à côté des prestations de prestataires, il y a de nombreux coûts indirects. Les salaires des personnes qui s'occupent de la cantine, les animateurs, etc. On est en train de faire les calculs. Hein. À coût complet, on est quasiment à. On est presque à 7 euros, le coût complet d'un ticket de cantine. En prenant en compte les frais de fonctionnement, de structure au niveau des bâtiments, les salaires, etc. Donc ces coûts-là ont augmenté depuis 2009. Ça suit l'inflation, ça suit les augmentations des salaires. On a fait le choix, c'est très important, je pense, de le dire ici, de ne pas répercuter cela. Ça veut dire que le montant, la part de subvention de la part de la mairie augmente. Vu la situation actuelle, ça a été un débat aussi, quand on a discuté, on aurait pu, si on avait été dans des meilleures conditions financières au niveau de la commune, on aurait peut-être pu aller plus loin et choisir de subventionner encore plus. Parce que la question de l'alimentation des enfants, c'est une question cruciale, de première importance.
On aurait pu aussi faire le choix inverse, d'avoir des recettes.
Ouais, voilà. Il faudra qu'on cherche les recettes ailleurs, mais pas là.
On avait étudié aussi.
Pas sur ce poste-là.
Il y a déjà une variation sur les revenus des familles. Et je trouve que c'est.
Il faudra y trouver ailleurs. Ça, on en dit, ce sera une autre discussion. Est-ce qu'il y a d'autres observations ou questions sur cette nouvelle tarification ? Donc, en résumé, aujourd'hui, au niveau de le service enfance jeunesse, sont tarifés selon les conditions de revenus la cantine et les vacances, l'accueil en centre de loisirs pendant les vacances. Il n'y a que la garderie qui pour l'instant est à prix unique. Pour l'instant, c'est des choses qu'on peut. C'est les méthodes de calcul. Que l'on a eu pour pouvoir ensuite calculer les effets. Non, ça n'a rien à voir. S'il n'y a pas d'autres observations ou questions, on va donc passer au vote. Donc, pour l'approbation de ces nouveaux tarifs que vous avez sous les yeux, donc que tout le monde a sous les yeux dans le public aussi, je ne vais pas tous les relire, mais qui s'instaure selon 5 tranches de revenus, inférieures à 15 001 à 30 000 euros, 30 001 à 50 000 euros, 50 001 à 75 000 euros et plus de 75 000 euros par foyer fiscal. Et prenons en compte donc le nombre d'enfants à charge, toujours on reste sur le nombre d'enfants à charge. Donc vous avez sous les yeux les nouveaux tarifs. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Donc François Bessy s'abstient.
Donc, les nouveaux tarifs sont adoptés à la majorité. On va passer au point 7, qui porte sur, à nouveau, la création d'emplois d'agents vacataires. Ah, excuse-moi.
Ouais, non, je voulais juste dire, pour revenir au point précédent sur la tarification à 1 euro du vendredi, à la mesure où les enfants et les parents ont inscrit leurs enfants pour la période qui démarre lundi jusqu'au 31 décembre, ils les ont déjà inscrits avant, ça me paraît plus juste de faire démarrer ces nouvelles tarifications du vendredi pour la période suivante, c'est-à-dire du 2 janvier.
D'accord. Hein,
parce que sinon, ouais. Ça serait les... Ouais, ça va pas
bien. D'accord. Par contre, pour la cantine, ça prendra effet à compter du 1er décembre. Il y a déjà une lettre d'information qui a été envoyée au poste. Alors, pour la création d'emplois d'agents vacataires non titulaires, donc là, on continue un peu, on a déjà pris des délibérations dans ce sens-là, pour la filière patrimoine pour le musée, et puis pour la filière animation. Là, il s'agit de créer deux postes de vacataires pour les filières administration et entretien, service technique entretien. Donc on propose de créer ces postes. Jusqu'à présent, vous savez, des vacataires étaient parfois recrutés sans que les postes aient été officiellement créés par la délibération du conseil municipal, ça doit être fait. Donc on applique ici le même tarif que pour les autres vacataires en filière animation et patrimoine, c'est 60 euros par jour. Et pourquoi sont faits ces postes de vacataires? C'est vraiment pour répondre à des surcharges sur des périodes très courtes. Et donc le fait d'avoir des postes de vacataires nous permet de pouvoir très rapidement recruter sur un jour, deux jours, trois jours, etc. par exemple. Donc ça nous donne de la souplesse par rapport à la réalisation, la contribution sous forme de contrats en CDD classiques qui sont beaucoup plus lourds, sachant que notre politique, c'est aussi que pour le recrutement en CDD, de faire une publication des postes, transparence dans les recrutements, etc. Donc ça demande des délais toujours plus longs. Il y a aussi cet intérêt des postes de vacataires. Donc là, que ce soit... Alors, on a des cas précis pour la filière entretien, ménage, quoi. Et du coup, on a, pour ne pas revenir encore délibérer vers vous, on se propose aussi tout de suite d'ouvrir un poste de vacataire à filière administrative. Comme ça, on aura couvert l'ensemble des services et on aura tous les moyens pour pouvoir recruter des vacataires.
Donc, c'est par rapport à une réactivité en cas de besoin.
Voilà.
Mais quand il est écrit surcharge de certaines périodes de fonctionnement, aussi de l'absentéisme.
Mais pour des durées brèves, après, vous savez que les absences pour de longues durées, ben là, on a...
De toute façon, un remplacement en cas d'absence est toujours lié à l'arrêt, déjà. Si, oui. Par exemple, tu as un arrêt de 15 jours, pour la durée de l'arrêt, tu ne peux pas aller au-delà,
c'est la durée de l'arrêt. Bien, mais il y a certaines fois où l'agent est absent et on peut continuer, le service peut continuer à fonctionner avec l'absence de l'agent. Il y a certaines fonctions pour lesquelles dès la première journée d'absence propose un problème, quoi, ou la deuxième journée. Donc il faut pouvoir réagir rapidement. Donc par rapport à la... Oui, Inès.
Il n'y a pas marqué le poste administratif.
Si, c'est tout en haut de la deuxième page.
Tout en haut, regarde.
Donc, pour la création de ces deux postes de vacataires sur les filières services techniques, entretien et filières administratives, qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Et on passe donc aux trois derniers points qui concernent trois commissions. Une commission qui existe déjà et deux nouvelles commissions que l'on met en place. Donc, pour la commission urbanisme... jusqu'à présent, Michèle Battiti donc, était membre de cette commission, donc elle a démissionné du conseil municipal. Elle est dans le cadre de la liste, je ne sais plus comment ça s'appelait la liste.
D'opposition.
La liste d'opposition, il y en avait trois, non, je ne sais plus c'est son nom. Bref, dans ce cadre-là, on a proposé à M. François Dessy d'intégrer, de la remplacer donc, au sein de la commission urbanisme.
C'était pas incroyable.
Voilà. Je ne sais pas s'il y a des observations, des commentaires par rapport à ce point.
Très volontiers.
Bienvenue.
Voilà, donc bienvenue dans la commission urbanisme. Non, donc qui se prononce contre? Qui s'abstient? Donc le conseil accepte à l'unanimité que M. Dessy rejoigne la commission urbanisme. Alors ensuite, nous proposons de créer deux commissions, une commission association et une commission travaux, qui n'existaient pas jusqu'à présent. On souhaite mettre en place, pour formaliser un peu une procédure importante, de, notamment aux yeux des associations, mettre en place une commission association, donc qui sera essentiellement chargée d'examiner les dossiers de demande de subvention pour la durée du mandat. Donc, on propose de mettre dans cette commission les élus qui sont référents des associations. Donc, Denis Pierre et Béatrice Tagoni-Coster pour toutes les associations qui ont trait à la culture, Serge Boulet pour la PEM, Mylène Julier pour la crèche, Laurent Moulin pour l'ensemble des associations, puisqu'il est référent notamment pour ces questions de subvention, pour l'ensemble des associations, mais en plus, il s'attache plus précisément aux associations sportives, etc. Et Laurence Rousseau pour le GRAM, référente pour le GRAM. Donc, cette commission aura pour tâche, une fois que nous aurons reçu les demandes de subvention des associations en fin d'année civile, au 31 décembre, d'examiner les demandes selon une grille d'évaluation qui aura été communiquée à l'ensemble des associations. La commission se réunira en janvier, sans doute, ou début février, on verra, pour transmettre une proposition. Nous sommes obligés, puisque ça doit être voté au moment du vote du budget, c'est-à-dire au mois de mars de chaque année. Donc, pour cette année, la campagne va être lancée la semaine prochaine ou celle d'après, enfin tout début novembre. Donc, un courrier va être envoyé à l'ensemble des associations et nous avons décidé d'instaurer ce rythme-là, ce calendrier maintenant chaque année. Donc, un courrier va être envoyé aux associations
novembre,
en expliquant la procédure aux associations, en leur proposant pour celles qui le souhaitent de venir retirer un dossier en mairie ou prochainement sur site web, pour rendre le dossier fin décembre. Ce qui permet aux associations de pouvoir, si c'est nécessaire, faire leur AG, rendre leur compte, etc. Voilà. Et donc, la composition de la commission sera communiquée aux associations. Et ça permet donc de stabiliser, je dirais, définitivement la procédure. Est-ce qu'il y a des questions, des observations sur ce point ? Voilà, donc je vous demande de délibérer. Donc par rapport à la mise en place de cette nouvelle commission association à sa composition, y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Pour finir, le dernier point, donc c'est la création d'une commission de travaux. Donc, là également, je continue. Nous arrivons dans une ère où il sera de plus en plus important de veiller à la façon dont nous faisons les arbitrages en termes d'investissement, parce que ça va être de plus en plus difficile à gérer ces questions-là. On le verra au travers du vote du budget 2016. Donc, dans les investissements, reste à la charge de la commune tout ce qui va concerner les investissements sur les équipements municipaux, puisque tout ce qui est investissement, c'est ça la principale chose qui va rester, puisque tout ce qui est investissement, voirie, espace public, va passer à la métropole. Donc le gros des investissements vont concerner les équipements municipaux. Que ce soit des petits travaux, notamment tous les travaux de réparation, d'amélioration, etc., qu'on a à mener chaque année. En plus, je dirais, des chantiers ou des travaux plus importants, soit de construction, soit de restauration. Et donc, pour pouvoir arbitrer et planifier au mieux, dans un souci de gestion optimale des moyens, qu'ils soient financiers ou humains, puisque les moyens humains aussi, il va nous falloir les gérer au mieux. Je pense aux services techniques dont deux membres vont nous quitter pour aller. Enfin, vont nous quitter, ils vont toujours travailler sur Murviel, mais ils vont être gérés par la métropole pour les voiries et les espaces publics. Donc ça demande vraiment une gestion la plus rationnelle possible. Et donc pour ça, il nous semble important de constituer une commission qui est constitué des élus qui sont en charge, au travers de leur délégation, qui sont en lien avec ces équipements. Et l'idée, on a commencé à mettre ça en place, chaque année, au mois de septembre, de recueillir l'ensemble des besoins, donc septembre-octobre, hein, on est encore en cours en ce moment, l'ensemble des besoins, pardon ? De recueillir un moment de l'année, donc bien précis, l'ensemble des besoins en travaux, d'amélioration des bâtiments, hein, pour pouvoir planifier, faire des choix, faire des arbitrages, informer les usagers des arbitrages qui sont faits, et pouvoir ensuite planifier avec les services techniques au mieux les travaux à mener. Donc on propose que cette commission soit constituée de Serge Boulet pour tout ce qui est les bâtiments, écoles, CLSH, etc. Denis Pierre pour la médiathèque, Laurent Moulin pour tout le plateau sportif, les équipements sportifs, Alain Valette-Vialard pour toute la partie mairie et locaux techniques, tant qu'élu. Mathias Mignard pour les espaces verts qui restent encore dans le domaine communal. Les espaces verts en domaine communal, c'est les jardins de la mairie, c'est tous ces petits espaces-là, c'est les jardins de l'église, c'est par exemple différents petits espaces comme ça qui restent à la commune. L'espace qui est derrière le bâtiment Gesso, à côté de la crèche. Et Mylène Julier pour la crèche. Et il manque Romain pour la salle des jeunes, tu as raison. Alors, voilà, on va le rajouter. Il n'est pas là, on rajoute Romain. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations sur ce point ?
Moi, je pense que juste le terme travaux, tout seul, comme ça, commission de travaux, c'est pas juste par rapport à ce que fait la commission. Moi, je l'appelle un peu travaux bâtiments communaux.
Oui, on peut rajouter ça, bien sûr.
D'accord. Clair pour les citoyens.
D'accord.
Équipements municipaux.
Ok.
Pas que les bâtiments.
Ouais, les équipements, ouais. Le stade de foot, tout ça. C'est... Alors, pour la création d'une commission travaux équipements municipaux et sa composition, qui, en rajoutant donc Romain de Loustal, qui est contre, qui s'abstient, donc c'est adopté à l'unanimité. Voilà, donc peut-être une information, en information diverse, une information sur l'antenne. Alors, parce que la question nous a été posée.
D'accord, sur l'antenne. Vous l'avez dit déjà plusieurs fois, on a eu quelques petits problèmes techniques et administratifs sur l'antenne avec des problèmes de zone inondable, des questions, donc on est amené à déplacer le transformateur, des questions qu'on a découvertes, le notaire a découvert, on n'avait pas du tout anticipé parce qu'on ne savait pas, d'hypothèques sur le terrain ont été montées, le transformateur qui s'est levé. Ce qui fait que ça nous a fait perdre quelques semaines. Pour l'instant, on en est à la semaine prochaine, donc plutôt vers la fin de la semaine prochaine, doit commencer la création de la tranchée pour alimenter en énergie électrique l'antenne. Qui part du poste qui est en face de la gare coopérative, ou la départementale, qui prend le long du lotissement et le chemin des îles jusqu'à l'antenne. Ça devrait démarrer, ça fait le planning, milieu de semaine prochaine. À cette occasion-là, ça va durer de 2 à 3 semaines. Et profiter de la tranchée pour mettre à l'intérieur de la tranchée-là, à la fin du lotissement des îles, il y a une ligne téléphonique aérienne, elle va être enterrée. Jusqu'au fond de la vague et de repartir en aérien pour desservir la maison de Madame Duquesne. Le transformateur électrique basse tension va être implanté sur un terrain de 44 mètres carrés. on est en train, on n'a pas encore acheté ce terrain, à cause de ce problème de l'hypothèque, la signature de l'acte était prévue par le notaire la semaine prochaine aussi. Donc on devrait pouvoir le faire. On a une petite marge de manœuvre, puisque tant que le temps ne sera pas livré, les travaux ne seront pas faits, on peut gagner encore une semaine si c'est possible. Le transformateur, lui, devrait être installé, c'est lui qui nous pose le problème, vers le fin novembre, entre le 23 et le 27 novembre, il devrait être livré à ce moment-là. Et une fois que tout ça sera fait, on pourra mettre en service l'antenne, c'est-à-dire les connexions seront faites, et elle devrait être, d'après les services qui font les travaux, mise en service dans la semaine du 7 au 11 décembre. Alors, il y aura peut-être un petit décalage, mais c'est ce qu'ils, eux, dans leur planning, ils ont du 7 au 11 décembre, l'antenne fonctionne. Et dans leur planning, ils ont le chantier de l'antenne de Muriel est terminé, clos pour le 15 décembre. Donc voilà les chantiers sont prévus. Donc avant Noël, on devrait avoir, comme l'a indiqué d'ailleurs plus tard dans le journal, avant Noël, on devrait avoir accès à l'antenne. Très bien fonctionné. Super.
Voilà, ça c'est un point d'information. Sinon, un deuxième point d'information, côté métropole, on a des informations plus précises sur les calendriers concernant les PLUI de SCOT. Donc le PLUI doit être terminé, voté fin 2018. Donc à partir de là, c'est le point, je dirais, de compte à rebours à partir duquel l'ensemble des opérations découle. Donc le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, doit donc être entièrement révisé et voté fin 2017. Donc pour pouvoir mener ça, l'étude en ce moment a été lancée une étude au niveau de la métropole pour construire le projet qui s'appelle Montpellier Métropole Territoire, qui est un projet urbain, je dirais un projet de territoire qui fixe un petit peu de façon spatialisée les grandes intentions en matière de développement urbain, enfin de construction agricole, etc., économique, dans tous les domaines. Et donc cette étude-là, elle est confiée, le bureau d'études a été recruté la semaine dernière. Et donc l'étude va commencer incessamment sous peu et va être terminée en fin 2016. Donc toutes les échéances sont décalées d'un an comme ça. Donc fin de l'étude, fin 2016. Fin SCOT voté fin 2017 et PLUI voté en 2018. Donc notre étude urbaine, vous savez que nous à Muriel, on a anticipé les choses parce qu'on a lancé une étude urbaine chez notre territoire. Elle va venir abonder l'étude globale de la métropole. C'est pour ça que la métropole a cofinancé cette étude avec nous. Sachant qu'en plus, de notre point de vue, elle a une partie très opérationnelle. Non seulement c'est une étude un peu conceptuelle sur notre projet de territoire à nous, mais en plus elle est pré-opérationnelle, comme on vous l'a dit, sur quelques secteurs sur lesquels on veut rapidement pouvoir développer des projets. Et donc, les conseils municipaux, les municipalités vont être consultés, les maires, et il y aura une commission avec les adjoints à l'urbanisme qui va être aussi constituée pour suivre ça. Voilà. Donc, juste pour votre information, on vous informera bien entendu régulièrement de l'avancée de ce dossier. C'est encore voté. Voilà, ça va être voté. Ça a été présenté, mais ça va être voté. Voilà. Bien, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres interventions, la séance est close. Bonsoir à tous.